Rebonsoir Alain.
Rebonsoir.
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 Je disais donc, il y a un petit moment, que la situation politique est bon, quasi inédite. Une année 2024 qui va pas tarder à s'achever. La pire de toute la Ve République, Alain.
Ah oui, sans hésitation. Bon, il y a eu des années dramatiques. Hein. Bon, ça ne dit plus rien maintenant, mais enfin... Le putsch des généraux en 61, mais 68, ou les grandes grèves de 95, c'était impressionnant. Et il y avait des dérèglements, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des dérèglements institutionnels et politiques au cœur de la Ve République, au cœur du fonctionnement de la Ve République, et qui se passent dans de telles conditions, avec un tel environnement budgétaire, financier, militaire, psychologique chez les Français, qui sont plus pessimistes que jamais, plus pleins de ressentiments vis-à-vis du monde politique et de ceux qui les dirigent. Bon, et là, on a une année d'accélération de la déconstruction politique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quatre gouvernements dans l'année, ça n'a jamais existé. C'est pas que ça n'a jamais existé sous la 5e, mais ni sous la 4e, ni sous la 3e. Quatre gouvernements dans l'année... Bon, la base parlementaire du gouvernement, la plus étroite de l'histoire, ce qui est d'ailleurs assez logique à partir du moment où elle est ultra minoritaire. Et puis la mise en cause par ouvertement les Insoumis et mezzo voce le Rassemblement national du président de la République, c'est-à-dire demandant sa démission, c'est-à-dire demandant en clair de vouloir instaurer maintenant... Après l'instabilité gouvernementale, là c'est réussi. L'instabilité législative, là c'est réussi aussi. C'est d'ailleurs de la faute d'Emmanuel Macron. Maintenant, ce serait l'instabilité présidentielle. Alors ça, on n'a jamais fait. Et c'est vraiment le contraire même, non seulement de l'esprit, mais de la mécanique élémentaire de la Ve République. Et d'ailleurs, moi, le sentiment que j'ai, alors je vais vous paraître comme... sorti de l'ère primaire, mais la première année que j'ai vraiment suivie en politique avec passion, c'était l'année 1958, j'avais 18 ans, et c'était l'écroulement de la 4e République. Et là, je trouve que dans la façon dont tout se déconstruit, et avec comme en 58, à la fois la question financière, la question militaire, la question dramatique, etc., ça ressemble à la fin de la 4e République. Alors que nous avons le régime qui est censé être le plus stable d'Europe.
Puisque vous déroulez le livre d'histoire, Alain, dites 2024, assurément pire année politique de toute la 5e. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un tant soit peu le reflet de l'évolution de la société française? Est-ce que nous, Français, on peut s'exonérer absolument de toute responsabilité dans ce bilan assez sombre de l'année 2024, Thomas?
Ah non, c'est bien d'ailleurs... de poser la question comme ça, parce que souvent, nous, les commentateurs politiques, on commente ce que font les politiques et on ne parle jamais de la responsabilité de ceux qui les mettent en place. C'est vrai qu'il y a cette idée-là aussi qu'il ne faut pas oublier. Et j'ai pas vécu 58, moi, je n'étais pas né, mais effectivement...
Donc c'est une excuse.
C'est une excuse, mais on a l'impression, de ce qu'on dit de 58, que cette période-là, les manettes du pouvoir ne répondaient plus.
Bah oui.
Et donc ça crée une énorme angoisse dans la population, oui. et c'est ça qu'on ressent aussi. Alors c'est vrai que d'un point de vue institutionnel, politique et peut-être aussi économique, c'est sans doute la pire année, mais si on regarde cette année finalement, il n'y a pas eu de grandes grèves, il n'y a pas eu d'attentats, il n'y a pas eu... On n'est pas en guerre.
On est sur le bord d'une guerre en Europe.
Oui, en Europe, c'est vrai.
J'essaie
d'allumer quelques rares petites lumières dans le tableau très sombre que vous avez dressé et qui est vrai. D'un point de vue institutionnel, c'est dramatique et en réalité, en France, même quand on a des crises économiques, des grèves, des manifestations, et qu'on montre au monde entier un pays éruptif, le monde entier nous regarde quand même en se disant c'est stable, l'économie quand même, les fondamentaux sont solides, la France, on arrive à reconnaître, on arrive à lire la politique, les élections ont lieu à des dates à peu près connu de tous. On sait qui peut gagner, qui peut perdre, on connaît. Voilà. Et ça, c'était l'avantage de la France, notamment pour emprunter sur les marchés à des taux plutôt avantageux en rapport à l'état de nos comptes publics. Et là, c'est cassé. Cet aspect institutionnel qui était notre force et qui était la force de la Ve République, qui est une république, qui est une constitution vraiment assez plastique. Et ça, c'est que de la responsabilité d'Emmanuel Macron. Parce que cette dissolution, vraiment, c'était le petit truc qui a rendu l'année terrible comme année horribilis.
Alors, c'est absolument vrai sur la dissolution. Pour le reste, il y a quand même quelque chose qui a été très visible à travers les élections européennes, les élections législatives, et qui se retrouve d'ailleurs dans les sondages, même s'il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. C'est que la France est de nouveau, comme c'est une de ses faiblesses, alors pour le coup traditionnelles, depuis toujours, la France est de nouveau divisée, et divisée gravement, avec le Rassemblement national qui a poussé l'extrême droite à un niveau qu'elle n'a jamais atteint de l'histoire, avec la gauche qui demeure sous tutelle, alors sous tutelle malheureuse, ils s'impatientent, ils s'agacent, ils se disent des choses désagréables, mais sous tutelle quand même des insoumis. Bon, et avec au milieu des forces dites centrales, qui d'abord sont minoritaires, qui ensuite sont divisées, et qui enfin se détestent. Bon, je n'en rajoute pas, c'est la réalité.
La gauche des années 70 considérait que la droite était fasciste et la droite des années 70 considérait que la gauche était communiste.
C'est absolument vrai, mais il n'y avait pas deux forces anti-système proclamées et de ce poids.
Oui, c'est vrai. Mais il y a, moi, ce qui me préoccupe aussi, c'est non seulement ces deux forces anti-système, mais par exemple, quand vous regardez la pente de la droite de gouvernement, je trouve qu'il y a une pente illibérale. Ils critiquent les juges en permanence, ils critiquent les décisions de justice, ils critiquent les...
On est au lendemain de la condamnation définitive de Nicolas Sarkozy.
Voilà. Alors là, c'est pour ça.
Qui a bénéficié du soutien de Christian Estrosi, de Laurent Wauquiez.
En critiquant la justice. Mais alors, moi, je trouve ça assez génial. C'est peut-être la petite pointe d'espoir. Hein. Cette droite qui critique, par exemple, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, et tout ce qui est censé surveiller un petit peu l'état de notre état de droit et notre démocratie, tout à coup se remet à croire à ce contrôle supranational. Ça me réjouit. Paul Bismuth, finalement, sera peut-être l'homme de droite de l'année, puisqu'il aura sauvé l'honneur de la droite en demandant à la Cour européenne de justice enfin d'agir après l'avoir tant critiqué.
Oui, mais alors ça. Si ça devait se terminer, ce qui est une hypothèse,
c'est possible.
C'est pas une certitude, mais si ça devait se terminer par une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme, été saisie, ça serait pas glorieux non plus.
Non, mais ça voudrait dire on n'est pas le pays le plus...
de la France.
De la France, oui.
On n'est pas le pays
En fait, condamnation de la Cour de cassation.
Oui,
c'est
on n'est pas le pays le plus condamné par la CEDH.
Bien entendu, mais, je ne dis pas ça.
Mais si il faut rappeler.
Ça serait le seul cas concernant une personnalité aussi symbolique du pays, franchement.
C'est vrai, ça serait un peu
fâcheux. Un esclandre.
Moi, je trouve que ça serait fâcheux par rapport à l'espèce de sentiment d'impunité qu'ont les Français vis-à-vis des politiques. Mais s'il faut rappeler, si quelqu'un doit rappeler que les conversations entre un avocat et les justiciables doivent être privées, bah, peut-être qu'il faut le faire. Voilà, mais,
vous parliez de pente de la droite. Actuellement.
Je trouve qu'il y a une pente un peu... Quand j'entends Bruno Retailleau, qui est quelqu'un de tout à fait respectable et tout à fait affable, mais quand je l'entends parler d'ordre comme ça, je ne sais pas pourquoi, du temps de Charles Pasqua, c'est peut-être que je vieillis aussi, hein, du temps de Charles Pasqua, quand il parlait d'ordre, je sentais un républicain autoritaire. Là, je sens des remises en cause un petit peu. Ça ressemble un peu à l'ordre vendéen, l'ordre ancien. Voilà.
Oui, à l'époque de Charles Pasqua...
C'était du dur, je m'y opposais. Moi, en 86, j'étais dans la rue, j'étais jeune étudiant.
Bon, mais moi, je n'étais pas étudiant à cette époque-là, et de loin. Charles Pasqua, c'était quelqu'un d'extrêmement inquiétant. Et qui, en particulier, avait une conception des services parallèles qui n'était pas très exactement démocratique.
Je pense qu'on peut être républicain et très, très autoritaire, et au-delà. Mais c'est pas
enfin,
ça.
Enfin, Bon, je trouve qu'il y a une glorification post-mortem de Charles Pasqua.
Je le glorifie pas, non.
Mais moi, j'entends ça assez souvent.
Pas de ma part.
Il avait l'air débonnaire, et puis il avait un bon accent, comme si l'accent avait quoi que ce soit à voir avec la réalité des sentiments, du tempérament et des responsabilités. Non, mais on entre dans l'incertain, mais on a des perspectives politiques liées, c'est ça qui est essentiel, liées à des perspectives financières, monétaires, mais aussi sociales. Parce qu'il va y avoir les conséquences sociales.
Projetons-nous un tout petit peu 2025, on n'est pas à l'abri, même en 2025, une fois sorti de 2024, de nouvelles surprises de taille sur le plan politique.
Évidemment, ne serait-ce que parce qu'il y a cette nouveauté, parce que ça c'est une nouveauté, qui est de demander la démission du président de la République. Et à partir du moment où on demande la démission du président de la République, on crée une instabilité présidentielle au moins virtuelle. Et si jamais ça se faisait...
Ce serait une mauvaise nouvelle, une présidentielle anticipée.
Une présidentielle anticipée, ça voudrait dire qu'ensuite, chaque président serait attaqué à un moment de son quinquennat par une demande massive de démission. C'est pour ça que je parle d'instabilité présidentielle. Il faut se rendre compte qu'on a créé, tout ça date quand même depuis 58, on a créé un système néo-présidentiel pour avoir l'essentiel de l'autorité entre les mains d'un président assuré de sa stabilité. Bon, aujourd'hui, l'essentiel de l'autorité n'est plus dans les mains du président, en tout cas pas dans la phase actuelle, et deux, la stabilité, elle est aujourd'hui extraordinairement fragile. Et si on entrait dans... Mais d'ailleurs, ça n'est pas viable à terme. D'ailleurs, du côté de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas une honte, c'est sa théorie, c'est sa conviction, et c'est ce qu'il recherche depuis toujours. L'idée, c'est d'en finir avec la Ve République et de mettre sur pied une politique, quelque chose qui ressemble à une Sixième République et qui serait de nature parlementaire, etc. Ça nous ramènerait à d'autres époques.
Une présidentielle anticipée, une destitution d'Emmanuel Macron.
Destitution, c'est pas
destitution,
possible.
Non, ça sera jamais voté, ça sera jamais accepté. S'il y avait une présidentielle anticipée, ça voudrait dire que Emmanuel Macron lui-même, il n'y a que lui qui peut le décider, parce que la destitution, je n'y crois pas une seconde. Emmanuel Macron lui-même considère que sa présence à l'Élysée bloque la situation.
Et il y a une hypothèse qui permettrait d'y mener. Mais ça serait une mauvaise chose, hein, mes yeux, d'y mener. Mais il y a une hypothèse qui permettrait d'y mener et qui est ce qu'on appelle le précédent Mihran, président de la République en 24. Il a voulu faire acte d'autorité. Et le cartel des gauches en face de lui a refusé de gouverner. Alors il a appelé un premier président du Conseil. Il est venu, il a dit non, je ne viendrai
pas.
Un deuxième, un troisième, un quatrième. Oui.
La gauche veut gouverner, sauf qu'elle durerait pas longtemps.
On en est quand même là.
En fait, ce que vous disiez tout à l'heure.
On en est à quatre premiers ministres.
Bien sûr, ce que vous disiez tout à l'heure sur le panel, le tableau que vous dressiez de la classe politique, de l'état de la classe politique.
Non, de la politique.
De la politique, c'est
la société politique.
Les plus modérés, à droite et à gauche, sont pour l'instant sous le coup des plus radicaux et ils sont en situation de faiblesse.
Au sein même du camp centriste.
Oui. Donc,
il y a deux ailes qui sont, elles, radicalisées, et au milieu, il y a des centristes qui, eux-mêmes, ont tendance non seulement à se diviser, mais à se durcir.
Voilà, bonne année 2025.
Y compris les uns contre les autres.
Merci pour la conclusion, Thomas Legrand. Merci, Alain. On s'arrête là. À l'année prochaine.
Pour 6 mois.
Alain, passez de...
Pour 6 mois.
Quoi, pour 6 mois?
Ben oui, pour le premier semestre de l'année prochaine.
Oui.
Mais là, ça va être en juin.
Rendez-vous la première semaine de janvier.
Il nous reste 6 mois pour le convaincre de continuer.
On a le temps, et surtout, on a le temps de profiter de vos analyses, encore un petit peu. Passez de bonnes vacances, reposez-vous bien.
Merci.
À 2025.